Panorama économique.
Bon week-end et bienvenue à ce panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Au sommaire de cette émission, des réflexions sont en cours au niveau du gouvernement pour que toutes les transactions commerciales et autres en RDC ne se fassent qu'en francs congolais. La paye prochaine des militaires et policiers par voie bancaire prévue pour le mois prochain suscite des inquiétudes. La voix des sans-voix craint que les irrégularités qui ont émaillé ces processus pour les autres catégories des fonctionnaires suscitent des frustrations de la part des hommes en uniforme. Et puis les travailleurs de la sidérurgie des Maluku ont exprimé leur ras-le-bol. Ils réclament que le gouvernement signe le contrat de concession avec le groupe américain Global ITCM ou qu'il leur paye leurs 85 mois d'arriérés de salaire. Nous y reviendrons dans cette émission. Panorama économique à la présentation Jocelyne Moussaoupondé et Mila Kimbini. Nous recevons pour commenter et analyser cette émission Jean-Baptiste Lokando. Il est expert et analyste des questions économiques. Monsieur Lokando, bonjour.
Bonjour madame.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier des réflexions sont en cours au niveau du gouvernement pour arriver à dédollariser l'économie nationale. Il s'agira, selon le ministre délégué aux finances, de s'y engager progressivement et sans bousculer les opérateurs économiques. Les ministres du budget, de l'économie et des finances en ont discuté mardi lors de la réunion hebdomadaire de la Troïka économique. Paul Matindo.
Des dépôts de banques commerciales à 90% se font en dollars. 95% des crédits accordés par ces banques sont libellés également dans cette monnaie. Le franc congolais n'a pas les statuts d'instrument de souveraineté, ce qui rend inopérant la politique monétaire de la RDC parce qu'elle n'agit que sur la monnaie nationale qui est une petite partie de la masse monétaire en circulation. Ainsi, le gouvernement a pris la décision d'engager un processus de dédollarisation progressif de l'économie congolaise. Selon Patrice Kitebi, ministre délégué aux finances, il faudra donc que les transactions de l'État, la passation des marchés publics, les paiements des impôts et taxes soient acquittés en monnaie locale. La stabilité du franc congolais pendant les trois dernières années ouvre la voie à une telle perspective. L'objectif étant que toutes les transactions locales se dénouent uniquement en monnaie nationale.
Jean-Baptiste Lokando, vous êtes notre invité. C'est avec vous que nous commentons et analysons l'actualité économique de la semaine. Vous le savez, on ne part que dollars hein, dans les échanges en RDC. Et que pensez-vous de cette initiative du gouvernement de pouvoir dédollariser l'économie?
Ok, merci madame. Mais je félicite un peu le gouvernement pour cette initiative oui. Qui est bonne, qui n'est pas si mauvaise. Mais je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'analyses. Il devrait commencer à se poser la question, pourquoi alors le dollar domine l'économie congolaise?
Mais c'est peut-être suite à cette question qu'ils sont arrivés à cette conclusion qu'il faut dédollariser.
Oui madame, c'est une bonne chose. Alors si vous dédollarisez cela, alors dans les transactions au niveau intérieur, mais le Congo est beaucoup plus, l'économie congolaise est extravertie. Mm-hmm. Nous dépendons de l'extérieur.
Oui.
Alors, lorsque nous dépendons de l'extérieur, les opérateurs économiques, madame, ne vous en faites pas, ils sont en train d'être en contact avec le reste du monde à travers une monnaie très forte qui n'est autre que le dollar.
Tout à fait.
Alors, dans ce cas, quand vous dites que oui, vous voulez dollariser, mais il y aura des conséquences énormes, madame.
Mm. Et quelles, par exemple?
L'opérateur économique va maintenant donner le prix des biens et services en monnaie locale, mais en se référant toujours au taux d'achat dollar. Or, au taux d'achat dollar, je ne sais pas, le ministre a analysé le volume des activités économiques. Alors, où est-ce que ces opérateurs économiques vont trouver les devises pour faire les transactions?
Selon vous, le remède?
Oui, le remède aurait été que le gouvernement devrait plutôt privilégier la production locale.
Locale.
La production locale, selon les normes, pour permettre à l'économie congolaise, alors, d'exporter de plus et d'importer moins.
Mm-hmm.
Alors, les exportations de très bonne qualité, de produits de très bonne qualité, selon les normes sur le plan mondial, Alors ça permettra alors d'avoir des devises, mm-hmm. et ce qui permettra aux opérateurs économiques de ne pas faire beaucoup de démarches ou beaucoup d'orientations pour avoir des devises. Mm-hmm. Ah, ça permettra alors, dans ces cas, de se référer aux monnaies locales, et notre monnaie peut avoir alors une puissance économique sur le plan international.
Tout à fait.
Alors, aller vite comme ça pour dire que voilà, je vais dédollariser les transactions. Je suis sûr qu'il devrait plutôt approfondir beaucoup plus des analyses. Faire un bon diagnostic. Parce que si vous ne faites pas un bon diagnostic, madame, et vous verrez que les conséquences, nous allons les subir et la mesure ne sera pas suivie.
Oui, mais le ministre de l'économie s'est entretenu cette semaine avec les opérateurs économiques pour leur demander de commencer par afficher les prix en francs congolais. Pensez-vous que cela aura des effets?
Oui, madame, ça n'aura pas d'effet parce que l'opérateur économique va afficher les prix en francs congolais, mais en se référant à quelle monnaie?
Au dollar.
Il va vous dire, voilà, au lieu de dire même au taux de vente, mais au taux d'achat dollar.
Mm-hmm.
Voyez, alors ça aura des conséquences sur le plan social. L'opérateur économique ne fera rien. Il observe le ministre, il dit son excellence, c'est bon. Mais lui va s'y déployer selon lui et pour satisfaire ses besoins. Parce que lui, là, n'est pas pour regarder le ministre, c'est pour maximiser son profit possible.
Tout à fait. Et deuxième dossier de la semaine, en perspective de la paye prochaine des militaires et policiers par voie bancaire, la voix de son voix émet des inquiétudes.
Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, cette organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme attire l'attention du gouvernement sur certains aspects qu'elle juge négatifs et qui ont déjà émaillé les précédentes opérations de paix des fonctionnaires de l'État par voie bancaire. Selon le directeur exécutif adjoint de la VSV, Rostin Maketa, ces aspects devraient être évités lors de la paix des militaires et des policiers. Le directeur exécutif adjoint de la VSV, Rostin Maketa, joint au téléphone par Jacques-Yves Molima.
Notre inquiétude est très fondée à ce niveau parce que vous savez, les agents et fonctionnaires de l'État, les enseignants et autres qui sont des civils, ont manifesté une certaine impatience lors de la paye par voie bancaire, suite par exemple à des cas tels que les noms qu'on ne trouvait pas dans certains listings, et il y a eu des attroupements importants devant certaines banques, déjà qui ont effectué de longues distances sans avoir été payées pendant plusieurs jours. Nous pensons que les policiers et les militaires ne seront pas en mesure d'afficher une telle patience. Et dans une telle situation, vous savez comment ils réagissent souvent. Donc ceci pourrait les pousser soit à troubler l'ordre public, c'est ainsi que nous en appelons au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette opération, combien salutaire, puisse se dérouler normalement lors de la paye des policiers et militaires.
Et du côté du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, l'on s'emploie pour que cette opération comporte le moins de failles possible.
Selon le président ad intérim de ce comité, John Kitungwa, des pourparlers sont en cours entre le comité de suivi de la paix, les FARDC et la police, ainsi que l'association congolaise des banques. Le but de ces pourparlers est de faire en sorte que la paix soit fluide et qu'il y ait des guichets mobile dans des camps militaires pour un bon encadrement de l'opération. John Kitungwa est lui aussi au téléphone avec Jacques-Yves Molima.
Lorsque nous avons commencé l'opération avec les fonctionnaires et les enseignants, il y avait l'ouverture de comptes qui s'est passée au même moment que les paiements. Mais aujourd'hui, nous avons résolu avec les FARDC et la Police nationale congolaise, d'abord l'ouverture des comptes, les jours qui vont passer pour être payés, il n'y aura plus de problème d'ouverture des comptes. Ils viennent juste pour être payés et repartir. Nous avons résolu de commencer d'abord par les officiers de FARDC et de la Police nationale congolaise de la ville province de Kinshasa avant qu'on étende vers les provinces. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait aussi des guichets dans les différents camps policiers qui font de mouvement vers les banques. Et troisième mode, c'est de mobile banking. On va utiliser les téléphones aussi comme mode de paiement.
Voilà, Monsieur Lokando, un commentaire sur cette information sur la paye par voie bancaire initiée par le gouvernement congolais.
Oui, c'est une bonne chose que le gouvernement ait pensé aujourd'hui, quand même que la paye passe par la voie bancaire. Mais c'est comme je le disais, ils n'ont pas pu analyser les choses correctement. Mmh. Il faut faire un bon diagnostic, madame. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes restés le dernier pays pour qu'on payait l'argent en espèces. Mm-hmm. Mais si nous voulons passer par la voie bancaire, alors nous devons prendre toutes les dispositions possibles. Toutes les banques privées qui sont ici, madame, ils n'ont pas assez d'agences dans chaque quartier. Le problème ne pourrait pas se poser si toutes les banques, s'ils avaient fait un bon diagnostic pour que toutes les banques aient alors des agences dans chaque quartier de la ville-province de Kinshasa. Alors là, chaque fonctionnaire, chaque catégorie de fonctionnaires, militaires ou policiers, pourrait rapidement aller soit dans une banque, soit dans une institution de microfinance, prendre son argent rapidement et puis il pouvait rentrer. Cela mm-hmm. pouvait éviter alors des engouements, ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, l'Azado émet l'inquiétude, tire la sonnette d'alarme pour dire attention. Et le gouvernement aussi, par cette commission, est en train maintenant de s'y prendre pour corriger. Donc il ne faut pas qu'on attende que ça soit pire pour corriger.
Pour corriger.
Il faut faire un bon diagnostic avant de lancer n'importe quelle opération, madame.
Oui.
Vous dites pour la ville-province de Kinshasa. Et le Congo n'est pas la ville-province de Kinshasa.
Tout à fait.
À l'intérieur du pays, là où il n'y a pas de banque, là où il n'y a pas de ceci.
Mais on pense que le mobile banking pourra tant soit peu résoudre les problèmes.
Lequel? Parce que quand vous dites non, nous allons utiliser même pas le système téléphonique. Alors combien de militaires ont été formés pour ça? N'est-ce pas pour utiliser ça?
Il faudra commencer par une formation.
Une formation, bien sûr, pour dire que cette catégorie, qui sont-ils? Qui seront
Est-ce
payés?
Est-ce que ça sera facile?
Est-ce que ça sera facile? Or, cette catégorie de fonctionnaires, ça ne pourrait pas poser de problème si on aurait pris toutes les dispositions en utilisant les banques privées, même les institutions de microfinance. Il y a des coopératives et dans tous les quartiers possibles, on sait que non, nous pouvons parler avec, nous pouvons prendre, signer des contrats avec telle coopérative, telle institution de microfinance, telle petite banque, ainsi de suite, pour la vie province de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Il faudrait qu'on prenne toutes les dispositions avant de lancer l'opération. Mm-hmm. Maintenant, vous allez maintenant alourdir alors la misère, surtout au niveau de l'intérieur du pays, madame.
Voilà, et nous passons tout de suite au troisième dossier de la semaine, la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le groupe américain Global IT. Pour la réhabilitation de la sidérurgie de Maluku a été encore reporté cette semaine. C'est le sixième report depuis 2 ans. Notre reporter est descendu sur place à Maluku, à 80 km de Kinshasa, pour connaître les raisons de ces reports.
Les travailleurs rencontrés sur le site de l'entreprise à Maluku demandent au gouvernement de fixer dans un bref délai la signature de ce contrat qui sera salutaire pour leur entreprise. Paul Matendo s'entretenait avec Agathe Mpona et Lima à son retour de Maluku suivant.
Il faut rapidement dire que sur place, nous avons rencontré une vingtaine des travailleurs qui attendaient encore les membres du gouvernement et la délégation du groupe américain Global ITCM et on pouvait lire facilement sur leur visage le désespoir, la colère par exemple. Je vous propose d'écouter ces travailleurs, Agathe.
Les robots, en tout cas, ceux qui Global a signé le contrat, le gouvernement va vous accompagner. Bisous que ça je suis accompagné. Bisous batterie compagnie au mumbula soko mumbula combien? Auto batterie compagnie. Tu bien accompagné de la société ma pesa biso. Balere na biso. Balingite. Pesa biso ba droit. Ton on pesa votre moto ndako na ye avant soko ba pesa ba balere mbula nini? Balingite. Mondere aye po na sera kotra biso to sera bien. Ba mo balingite. Soko balingite. Paso yo to zo zira. Paso yo soko global aiko signete. Biso ba travailler to revendre. Il y a des
travailleurs. Nous avons donc écouté là les travailleurs, mais que prévoit ce contrat que les travailleurs attendent ainsi de tous leurs vœux?
Oui, Agathe, il s'agit au fait d'un contrat du type ROT, c'est-à-dire réhabilitation, opérationnalisation et transfert. Il s'agit donc pour le groupe américain de réhabiliter la sociedaire, de la faire fonctionner et de la remettre au gouvernement congolais au bout de 20 ans d'exploitation. Ainsi, selon le ministère du portefeuille, cette entreprise devra payer des redevances fixes à l'État propriétaire. Ces redevances sont fixées à 400 000 dollars américains l'an, mais ils devront également payer des redevances variables en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Alors Paul, qu'est-ce qui serait selon les travailleurs à l'origine de ces multiples reports?
Agathe, les travailleurs évoquent plusieurs raisons. Ils accusent d'abord les comités de gestion de ne pas être d'accord avec ce contrat pour ses intérêts particuliers. Ensuite, ils parlent d'une enquête initiée par la ministre du portefeuille. En effet, les directeurs de cabinet de la ministre du portefeuille nous a affirmé qu'une enquête avait été initiée au vu de la disparition de la mitraille sur le site de l'entreprise située dans la commune de Massinam. Mm-hmm. Cette mitraille constitue la matière première de l'usine Agathe. Le ministère a donc jugé bon d'attendre les rapports de l'enquête de cette commission pour déterminer les responsables de la disparition de cette matière première. Ce n'est que quand le ministère aura ce rapport d'enquête que la signature du contrat pourra s'effectuer. Mais il faut dire aussi à Agathe que selon ses agents, cette enquête pouvait se faire même après la signature du contrat. Une autre raison que les travailleurs estiment être à la base de ces multiples reports, c'est la présence d'une autre firme tanzanienne dans le couloir du ministère. Suivez.
Apparemment, nous nous retrouvons dans une même situation avec tous les ministres passés. Et on apprendra qu'il y a les Espagnols qui veulent prendre l'entreprise. Maintenant, ce sont les Tanzaniens. Nous avons appris que maintenant, ce sont les Tanzaniens. Mais nous nous posons une seule question. Ils sont passés par quelle voie? La voie indiquée, c'est Copirep. Il n'y a pas eu appel d'offres.
Pour l'instant, Paul, que réclament donc ces travailleurs que vous avez rencontrés?
Oui, comme vous l'avez dit, Agathe, les travailleurs de la Sociedaire, ex-sidérurgie de Maluku, réclament deux choses. D'abord, que le gouvernement fixe dans un bref délai la date pour la signature de ces contrats sans tenir compte des enquêtes initiées par la ministre du portefeuille. Au cas contraire, c'est la deuxième chose, Agathe, le paiement de leurs arriérés de salaire de 85 mois.
Merci, Paul Matendo, pour toutes ces précisions. C'est donc un dossier à suivre. Paul Matendo, qui s'entretenait avec Agathe Mponaelema sur la situation à la sidérurgie de Maluku. Vous l'avez suivi avec nous, Monsieur Lokando, ces travailleurs qui expriment leur ras-le-bol et ils pensent qu'avec la signature du contrat avec cette entreprise américaine pourrait tant soit peu aider leur entreprise à sortir du gouffre, mais apparemment, selon eux, hein, il y a quelque chose de louche dans ces multiples reports.
Je suis en train de dire ceci, madame. Dans tous les pays du monde, on privilégie l'emploi, c'est-à-dire le travail. C'est-à-dire le travail n'est autre que la demande, parce qu'à travers le travail, il y aura maintenant un revenu, et ce revenu va augmenter la demande. Et ça va alléger la misère de la population. Voilà, c'est ce qui fait que dans la même lignée, ou dans la vision du chef de l'État, c'était plutôt pour alléger, c'est pour le social. Alors, quand vous êtes en train de détruire le travail, dans ce cas, vous êtes en train de détruire le social, ce qui n'est pas bon. Alors, ce que je peux dire au gouvernement, mais pourquoi il faut attendre pour relancer l'emploi, pour relancer la demande, qui profiterait alors à tout le monde, et à l'État, et aux travailleurs, et aux entreprises qui produisent les biens et services qu'on consomme. Je ne vois pas aucune raison. Mais s'il y a encore des intérêts égoïstes, ce n'est pas le moment, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment. Est-ce que pour signer un contrat, vous devez plutôt analyser, passer à l'étude, et l'étude doit prendre combien de temps, madame?
Plus de 2 ans.
Non. Il n'y a aucune étude qui peut prendre 2 ans pour analyser. Le problème de sidérurgie de Maluku ne date pas d'aujourd'hui, madame.
Mais il faut dire que ces démarches ont commencé avec le gouvernement Mousito. Aujourd'hui, c'est le gouvernement Matata. Peut-être qu'il se pose encore des petits problèmes. Le temps de vérifier, comme on dit au ministère du portefeuille, de voir clair sur certains sujets, de pouvoir enfin signer ces contrats.
Non, madame. Non. S'il vous plaît. Parce que quand vous dites voir clair sur quoi? Sur la matière première?
La matière première,
et le gouvernement, le gouvernement n'est pas à mesure de prendre des dispositions pour avoir la matière première. Parce que c'est ça l'ultime problème de la sidérurgie de Maluku. C'est-à-dire qu'on est allé mettre dans un emplacement où l'approvisionnement en matière première pose problème.
Il faut délocaliser l'entreprise.
La délocalisation, c'est bon. Ou soit alors chercher comment on peut s'approvisionner en matière première à moindre coût. Alors, ça ne peut pas prendre 1 année, 2 ans ou 2 mois. Je reviens encore sur le diagnostic. Parce que quand vous voulez lancer une entreprise, il faut étudier d'ailleurs. Il faut étudier où est-ce que je paie l'implantation. L'implantation, on ne peut pas implanter une usine plus loin où se trouveraient les matières premières. On place toujours à côté une usine là où se trouve à côté des matières premières. Alors, dans ces cas-là, ça ne va pas. Donc, au gouvernement, de faire un effort, de relancer l'emploi, de relancer le travail, ça serait une bonne chose. Et de faire taire surtout les intérêts égoïstes, ce qui ne sera pas normal.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance... Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine, le reliquat de la paye des agents et fonctionnaires de l'État par voie bancaire s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard de francs congolais.
Selon le vice-premier ministre et ministre du budget, l'audit de la paie a déjà commencé. Elle est conduite par un cabinet d'audit indépendant pour comprendre comment fonctionne le circuit de la paie. Selon Daniel Mukoko Samba, s'il est établi qu'il y avait des fictifs, des poursuites judiciaires sont tout à fait possibles à l'endroit de ce fictif et à l'endroit de celui qui l'a créé.
Des dizaines de tonnes de chenilles séchées et de riz traînent dans les villages de territoire de Yaouma et d'Isangui en province orientale, faute des routes pour leur évacuation vers les centres urbains.
C'est la révélation faite par la Fédération des entreprises du Congo FEC, antenne d'Isangui. Le service de l'agriculture d'Isangui confirme l'information, mais dit ne pas avoir de précision sur la quantité exacte de ces vivres.
Voilà, Monsieur Jean-Baptiste Kando, un commentaire sur l'une ou l'autre information. J'imagine que c'est la première qui a capté votre attention.
C'est plutôt Madame le contraire, c'est la deuxième.
Oui.
Parce que j'étais toujours sensible, j'ai toujours dit, l'économie congolaise est sensible à deux secteurs. Le secteur agricole et le secteur de l'industrie manufacturière. Si vous voulez le développement du Congo, il faut axer sur ces deux secteurs. Alors, je suis très content et je suis très ravi que le problème maintenant se pose au niveau d'Isangui. Parce qu'on ne s'est pas évacué alors.
Mais c'est presque partout. Je
commence d'abord par là.
Oui.
Comment on peut évacuer alors les biens des lieux de production vers les lieux de consommation? Il se posera un problème.
Oui.
C'est pourquoi quand vous relancez le secteur agricole, il y aura des effets d'entraînement dans tous les autres secteurs, notamment le secteur du transport.
Mm-hmm.
Il y aura maintenant cet effet d'entraînement dans le secteur du transport. Ça va aussi développer le secteur du transport. Ça permettra alors que les biens quitte le lieu de production vers le lieu de consommation et dans un bref délai et dans des normes si possible que cela. Alors, je demande plutôt au gouvernement de prendre toujours toutes les dispositions pour relancer le secteur agricole. Parce que c'est l'unique secteur qui a des effets d'entraînement dans tous les autres secteurs.
Il se pose apparemment encore un problème de diagnostic dont vous parlez depuis les débuts de cette émission.
Mais oui, bien sûr. Parce que si on fait un bon diagnostic, on devrait plutôt appuyer l'orientation générale du gouvernement dans la relance du secteur agricole.
Pas,
et du
pas
secteur
commencer par les tracteurs, peut-être construire les routes. Et puis,
madame, ce sont les effets
donner les moyens.
Ce sont les effets d'entraînement, madame. Parce qu'on ne sait pas construire les routes. On peut même utiliser le système de cantonnage parce qu'on a utilisé depuis longtemps.
Mm-hmm.
Ils sont payés par les entités décentralisées. Ils peuvent les payer. Ils vont réhabiliter les routes. Ce n'est pas construit. On va réhabiliter les routes et petit à petit, progressivement, on va arriver.
Panorama économique, matière première.
Matière première, c'est le ciment gris qui se fait de plus en plus rare en province orientale, entraînant ainsi une hausse de prix.
Le sac de 50 kilos est passé de 22 à 25 dollars à Kisangani. La baisse du niveau de l'eau dans la région expliquerait cette situation. La population sur place appelle de tous ses voeux la réalisation du projet de construction d'une cimenterie sur place.
Voilà, c'est ça la problématique. Donc la construction à Caen, hein, la construction de cette cimenterie, on l'a attendue aussi depuis longtemps, comme c'est le cas pour la sidérurgie de Maluku. Et puis se pose un autre problème, un deuxième, c'est l'étiage, qui est un phénomène tout à fait naturel. Il faut peut-être pas continuer à se plaindre, mais plutôt chercher à contourner le problème. Qu'en pensez-vous?
Oui, madame, moi je crois que l'étiage, ce n'est pas... C'est un obstacle majeur.
Oui.
Parce que nous sommes dans un pays spécial, madame. Un pays spécial. Si nous avons la saison sèche à l'est, il y a la saison pluvieuse à l'ouest. C'est un faux problème qu'on peut contourner, madame. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Depuis quand on a attendu cette cimenterie? Depuis quand à l'est? Imaginez-vous, cet espace de l'est de la République démocratique du Congo. Sans aucune industrie. Une cimenterie.
Qui dépend totalement de l'ouest.
De l'ouest, de deux cimenteries. Et à quel prix, madame? 14, 15 dollars, 11 dollars. Alors, on pouvait plutôt faire un bon diagnostic encore sur les deux cimenteries qui existeraient pour dire que pourquoi alors le ciment coûte trop cher, madame? Je me précipite pour vous dire d'emblée, c'est seulement l'énergie électrique qui fait coûter. beaucoup plus cher ce ciment-là. Or, si on produisait à moindre coût, on pouvait seulement supporter le transport mais et le ciment pour...
Comment aller... y arriver? Comment arriver à produire à moindre coût?
Madame, c'est ça le rôle du gouvernement.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller constater seulement la CINAT et la CILU, de faire un diagnostic pour dire pourquoi vous produisez à tel prix, madame. Le ciment importé coûte moins cher, coûterait moins cher. Aujourd'hui, en Turquie, le sac de ciment, c'est à 2 dollars. On importe tout au plus et ici, c'est peut-être à 10 dollars.
Et c'est peut-être au niveau de frais douaniers qui se pose un problème.
Non, madame. Ici, on pouvait toujours contourner cet obstacle et je vous l'affirme et je vous l'avoue. Si vous faites bien des enquêtes, vous trouverez qu'au niveau de la CINAT ou de la CILU, ce qui fait augmenter de plus en plus le prix au niveau des charges, c'est la consommation électrique, de l'énergie électrique tout simplement.
L'énergie qu'on a ici
Non, madame, on pouvait aussi contourner. De ne pas utiliser l'énergie électrique, il y a des énergies solaires qui existent, madame.
Mm-hmm.
Alors, on ne peut pas faire ça. Pour faire ça, il faut quoi?
Panorama économique, reportage.
Le reportage retenu cette semaine s'intéresse aux préparatifs du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, à un mois de cette rencontre internationale. Les opérateurs économiques congolais en général ne semblent pas se préparer à recevoir les 5000 visiteurs attendus pour l'événement de potentiels consommateurs supplémentaires. Comment se préparent-ils pour accueillir ce sommet? Un reportage que vous avez réalisé cette semaine, Jocelyne Moussaou.
La ville de Kinshasa s'apprête à accueillir le 14e sommet de la francophonie, une opportunité pour les hommes d'affaires de se faire plus de bénéfices par la vente des différents objets ou par l'offre de services aux visiteurs qui viendront à l'occasion de ces assises internationales de 3 jours. Si du côté des politiques l'engouement est au rendez-vous, les secteurs hôteliers semblent aussi se mettre au pas, mais c'est le contraire qu'on remarque dans les secteurs de commerce, contrairement à ce que l'on a observé lors de la fête du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC ou encore à l'occasion des autres fêtes nationale. La plupart d'entre eux disent continuer leurs activités comme ils l'ont toujours fait, n'ayant pas été associés à l'organisation de ces grands messes. C'est le cas par exemple des artisans et commerçants du marché d'art à la Place Royale. Ces derniers déplorent le fait que leur marché ne figure pas parmi les sites ciblés par les organisateurs de ce sommet, alors qu'il est réputé pour son attrait aux touristes qui vont y chercher des souvenirs de la RDC. Awanga Pedro est secrétaire adjoint de ce marché.
Nous sommes déjà prêts à nous. Mais pas ces akaka qui sommet en ligne de salle à mener tout le monde à préparatif, c'est-à-dire que les gens qui ont été aménagés, qui ont été aménagés, qui ont été déroulés, qui ont été déroulés. Mais biso a un marché, tout le monde a été déroulés, qui ont été pointés dans le monde. Donc, il faut toujours continuer à vivre, il faut que les gens soient aménagés, les gens soient quelques étrangers.
L'on peut également s'attendre à l'impression des pagnes, des t-shirts et autres à pareille occasion, mais sur le marché, aucun pagne n'est visible, même si à la société textile de Kisangani, Sotexki, on affirme qu'un lot de pagnes imprimé au motif de la francophonie a déjà été envoyé à Kinshasa. Maître Alaoua Lobella est président du conseil d'administration de cette compagnie.
Il n'y a pas d'impact, je crois que c'est un problème de tout des populations, hein, où il y a peut-être 100 000, 200 000 qui ont les tissus, alors Kinshasa qui a près de 8 millions d'habitants, c'est un peu difficile de prétendre habiller tout le monde.
Nous avons également contacté la Commission nationale de PME et commerce au sein de la Fédération des entreprises du Congo pour son président. Même si son secteur n'a pas été officiellement associé à cet événement, chacun dans son domaine s'apprête à sa manière à ses rendez-vous. Dieudonné Kassembo profite de l'occasion pour sensibiliser les opérateurs économiques à saisir cette occasion.
C'est une occasion qui leur est offerte pour qu'ils puissent effectivement réfléchir aussi s'ils ne peuvent pas lancer des petites choses comme ça, là, de gadgets, à l'occasion de ces 14e sommet, une occasion unique pour pouvoir se faire de l'argent. Il y a des gens qui viendront de partout. Il faudrait quand même qu'ils rentrent avec des souvenirs de la RDC. Donc moi je crois qu'à l'occasion de cette émission, il y a beaucoup d'opérateurs qui pourront réfléchir et créer, parce que nous avons encore pratiquement tout un mois pour se faire, madame.
À 30 jours de la tenue de ces sommets, les opérateurs économiques semblent ne pas se rendre compte de l'opportunité qu'offre pour leur business une telle réunion, signalant que plus de 5000 visiteurs du monde francophone sont attendus en octobre prochain à Kinshasa, ce qui peut être une véritable aubaine pour les opérateurs économiques congolais. Voilà, monsieur Lokando, Jean-Baptiste, un petit commentaire. Nous arrivons vraiment à la fin de l'émission.
Oui, ok, madame, c'est bien beau. Mais moi, je crois qu'il y a toute une commission qui est chargée pour la préparation de la francophonie.
Oui.
Alors, qu'est-ce que cette commission aurait fait pour faire une forte sensibilisation?
C'est peut-être au comité de réveiller les opérateurs économiques.
Oui, mais bien sûr.
Comme c'était le cas avec le comité d'organisation de la fête du cinquantenaire.
Oui, pas seulement réveiller les opérateurs économiques et toute la population congolaise.
Mm-hmm.
Et quelles sont les initiatives qu'ils ont prises pour que la population congolaise puisse en profiter du cinquantenaire? C'est ça le problème. C'est au comité de s'y prendre, il est encore temps. Et pour réveiller tout ce monde, alors que nous puissions nous tous préparer cet événement qui profiterait alors à toute la nation congolaise, bien entendu.
Voilà, je crois que le message est passé et c'est sur ces commentaires que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous recevions pour vous Jean-Baptiste Lokando, expert et analyste des questions économiques. Les rendez-vous avec l'économie, c'est déjà lundi à partir de 18h15, heure de Kinshasa pour Écho d'économie. Panorama économique, c'est samedi prochain, midi et demi, heure de Kinshasa. Bon week-end à vous tous.